Ok, donc c'est la dernière partie de Mixit, comme l'a fait Tristan Nitaud hier et comme l'ont fait des dizaines d'autres orateurs. Je vais faire la blague traditionnelle, je suis le dernier entre vous et la bière. Donc je vais essayer de ne pas être trop long et trop pénible, mais je vous préviens tout de suite, je suis là pour dire des choses désagréables, pour parler de morale, de philosophie, de choses comme ça. Il n'y aura pas beaucoup de code qui va défiler sur l'écran. J'ai quand même quelques images. Pas forcément terribles, mais enfin, ça donne une idée de ce dont je veux parler, c'est-à-dire la responsabilité du programmeur par rapport au travail qu'il fait et par rapport à l'attraction qu'exerce le côté obscur. On sait tous que le côté obscur est puissant, qu'il a des moyens. Et sur les programmeurs qui sont, comme le disait un orateur cet après-midi, dont je n'ai pas retenu le nom, mais les programmeurs, c'est eux ceux qui comprennent, c'est eux ceux qui savent, c'est ceux qui ont les connaissances. Ben donc, ils attirent. Il y a des gens que ça intéresse et qui sont prêts à offrir pas mal de pizzas pour ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'informatique est partout. À une époque, l'informatique servait à des choses et les programmeurs, les gens qui la maîtrisaient, qui la comprenaient, ben, avaient donc un certain pouvoir sur ces choses-là. Mais la plupart des gens s'en fichaient complètement. L'informatique était dans la vie de, par exemple, des militaires ou des scientifiques, mais pas de la plupart des gens. Aujourd'hui, au contraire, absolument tout se fait par ordinateur. On ne peut plus lire un journal en allant au kiosque à journaux et en achetant du papier, on le fait sur écran. On ne peut plus commander une baguette de pain ou n'importe quoi. Si la baguette de pain, on peut encore l'acheter sans ordinateur, mais ça ne va pas durer. Donc énormément de choses qu'on fait passent par l'ordinateur. À un moment, ce n'est pas exagéré de dire que la grande majorité de notre vie, que ce soit le business, la politique, les relations personnelles, passe à un moment ou à un autre par du logiciel. Et donc l'informatique, ce n'est plus un jeu comme ça pouvait l'être à une époque où on s'amusait à avec son Atari ou son Amiga, c'est aujourd'hui la source d'un grand pouvoir. Et comme l'a dit un philosophe fameux qui a été cité des tas de fois, un grand pouvoir, ça implique normalement de grandes responsabilités. Si, tant que c'était uniquement un jeu, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on est juste un développeur, qu'on n'a pas de responsabilité. Ce n'est pas cohérent avec le fait qu'on demande à être reconnu, qu'on est fier du pouvoir qu'on a, qu'on demande un salaire qui va avec, une reconnaissance qui va avec. Et donc, on ne peut pas esquiver la responsabilité qui va aussi avec. Par exemple, dans la discussion de savoir si l'informatique est neutre, hein, j'ai entendu un certain nombre de développeurs dont je critiquais l'activité qui me disaient Ah oui, mais moi je suis juste développeur, je ne suis pas responsable des usages qui en sont faits, c'est pas moi. Ce genre de discours, on peut le tenir quand on est caissière de supermarché. C'est vrai que la caissière à Carrefour, elle peut légitimement dire qu'elle n'est pas responsable de la politique de Carrefour. Elle y est pour rien, elle peut rien y faire. Enfin, si, elle peut menacer son chef de démissionner, mais bon, à mon avis, ça aura assez peu d'effet. Au contraire, le développeur, par sa compétence particulière, par le fait que c'est une compétence rare qui ne s'acquiert pas facilement, comme l'a rappelé Céron juste avant, celui-ci a un rôle qui est bien supérieur à celui du balayeur ou de la caissière de supermarché, et donc des responsabilités qui vont avec. Et c'est d'autant plus embêtant, cette responsabilité, que l'argent, pas seulement les pizzas qu'on voyait tout à l'heure, mais l'argent ne vient pas forcément aux projets qui sont les plus intéressants, les plus utiles. En fait, en gros, le côté obscur a plus de moyens. Il y a bien plus de développeurs qui travaillent pour espionner les gens, pour envahir leur vie privée, pour prendre des décisions qui sont mauvaises pour eux. Par exemple, les gens qui travaillent dans, je sais pas, le trading haute fréquence, par exemple, où on va faire des algorithmes extrêmement sophistiqués juste pour gagner un peu plus d'argent que les autres sans rien produire d'utile. Il y a beaucoup plus, et ça rapporte de l'argent. Donc, ça permet de payer des développeurs. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent pour cette activité que de gens qui se préoccupent de questions comme est-ce que ça sert à quelque chose que je fais? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rend le monde meilleur? Ou en tout cas, est-ce que ça n'aggrave pas trop sa situation? Des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Pour un Edward Snowden qui décide de dire ce qu'il faisait dans son métier, rien que ça, il y en a des tas qui continuent à travailler à la NSA tous les jours sans se poser de questions, sans se poser de problèmes. Donc, ce n'est pas facile de résister. Si ça l'était, il n'y aurait pas besoin d'un exposé comme celui-là. Si c'était facile et évident d'aller du côté, c'est comment le contraire du côté obscur, le côté sympa de la force. Si c'était facile et évident d'aller du côté sympa de la force, on n'aurait pas besoin d'en parler ici. Mais c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que c'est pas toujours évident de le savoir. Parce que quand même, dans la guerre des étoiles, il y a quand même un truc qui est trop facile, c'est qu'on voit bien les bons et les méchants. Ils sont quand même faciles à distinguer, et donc ça peut être difficile de résister au côté obscur, mais c'est pas difficile de l'identifier. Or, dans la réalité, souvent, les choses sont plus compliquées. Autrefois, à l'école, il y avait des leçons de morale qui étaient là pour vous apprendre à distinguer le bien et le mal. Il y avait un prof qui, au tableau, ça c'est tiré du film Topaz, lui-même tiré d'une pièce de théâtre de Pagnol, et les profs vous expliquaient ce que c'était que la morale, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. C'était simple. Le monde, depuis, est un peu plus compliqué qu'à l'époque, et c'est un peu plus difficile de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en plus, moi, je ne suis pas prof de morale, je ne suis pas meilleur que les autres, je n'ai pas fait des trucs extraordinaires comme Snowden, donc je ne vais pas donner des leçons ou dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Mon but est plutôt de poser des questions, d'abord de poser un principe qui est donc la responsabilité du développeur, ce qu'on fait a des conséquences, et même aujourd'hui des conséquences énormes. Donc il faut se poser des questions, et lesquelles faut-il se poser ? Après, les réponses, c'est une autre histoire, ça ne tiendra pas dans une keynote. Alors, voilà un exemple typique, par exemple, de responsabilité des développeurs. C'était j'avais au début prévu de faire cette keynote en commençant par poser une question. Qui est-ce qui est au courant du contenu de la loi qui a été votée cette semaine au Parlement concernant la surveillance de l'Internet ? Mais bon, après l'exposé de Tristan Itô hier, tout le monde est au courant, normalement. Enfin, tous ceux qui n'ont pas dormi pendant son exposé sont au courant. Donc, c'est pas la peine de le demander. Donc, il y a un des points importants de cette loi qui est la pose de boîte noire de surveillance du réseau chez les acteurs du réseau, hébergeurs, fournisseurs d'accès. Qui sait ce que contiennent ces boîtes noires et quel est l'algorithme qu'elles utilisent ? Personne. Eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes mal renseigné ou parce que vous êtes paresseux, non, c'est parce qu'effectivement, si elles s'appellent boîtes noires, c'est bien parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on a un dispositif de surveillance. Boîte noire est un terme qui n'a pas été inventé par des gauchistes dans l'opposition, c'était le terme qu'a utilisé le gouvernement au début pour présenter le dispositif. Donc, c'était un bon exemple. On a donc une boîte noire dont on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais des boîtes noires comme ça, il y en a déjà des tas. Aujourd'hui, plein de décisions qui affectent notre vie sont prises par des algorithmes. Alors ça va du plus trivial, vous vous connectez sur Amazon et il vous dit « Tiens, vous avez déjà commandé plein de bouquins de Fred Vargas, est-ce que vous voulez avoir le dernier, par exemple ?» Ou des trucs un tout petit peu plus sophistiqués. « Tiens, vous commandez tout le temps des romans policiers, il y a un nouveau roman policier qui vient de sortir. » Mais il peut y avoir aussi des algorithmes plus subtils et plus dangereux. Et si on contrôle cet algorithme, on contrôle la vie des gens. Un exemple typique, c'est dans le domaine bancaire. Les décisions que prend un algorithme avant d'accepter ou pas votre paiement, avant de tout à coup dire « Ah ben non, finalement, votre carte Visa, elle marche plus », on ne sait pas. Une fois, ma carte Visa a été refusée au moment d'un paiement. Je téléphone à ma banque. Je demande « Mais pourquoi elle a été refusée ?» Enfin, j'ai pas de découvert, j'ai pas voyagé dans des pays bizarres, j'ai pas fait de dépenses curieuses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle me dit, et la dame au bout me dit « C'est l'ordinateur ». Donc, bon, de nos jours, on dirait c'est l'algorithme, mais c'est le même problème, c'est-à-dire qu'une décision a été prise, importante, en l'occurrence, ça aurait même pu être très embêtant, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'algorithme, on ne sait pas comment il fonctionne, et donc le type qui a programmé l'algorithme, lui, par contre, a un pouvoir d'aider ou d'embêter beaucoup de gens. Je dis d'aider parce que, bien sûr, ces algorithmes, dans le cas bancaire, ont une justification. Le but, c'est d'empêcher le méchant qui a volé la carte bancaire de s'en servir. Mais ça peut aussi bien embêter les gens. Il y a aussi des cas plus rigolos. Il y en a un cas que j'ai vu aux États-Unis qui est un cas réel. C'était un algorithme d'apprentissage pour une boîte qui accordait des prêts. L'algorithme utilisait un certain nombre de critères et regardait ensuite un historique de cas précédents de gens qui avaient eu des prêts, qui ne les avaient pas remboursés, ils avaient remboursé en retard, et essayaient donc de déterminer quels étaient les critères importants. Donc le point important, c'est que ce n'est pas le développeur qui choisissait les critères importants, c'était un apprentissage à partir d'un corpus de cas réels, mais c'est le développeur qui choisit les critères. Et donc, l'un des critères, par exemple, était le fait d'avoir un nom à consonance hispanique, par exemple, ou des prénoms qui sont dans une liste particulière. Les Noirs aux États-Unis n'ont pas, en moyenne, pas le même genre de prénom que les Blancs, donc souvent, on peut faire la différence. Et là, une fois qu'un programmeur avait mis ce critère, il s'était aperçu que sur la base des informations qu'il avait, qu'effectivement, c'était des critères pertinents. Ça pouvait permettre de déterminer si les gens risquaient de faire défaut au moment de rembourser le prêt. Donc là, vous voyez que la responsabilité du programmeur dans des cas comme ça, elle devient beaucoup plus directe. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres de toutes les décisions qui sont prises pour nous. Pour revenir à la boîte noire de tout à l'heure, cette boîte noire va devoir déterminer si vous êtes un terroriste ou pas. Sur la base d'algorithmes secrets, mais il y a bien quelqu'un qui va les programmer. Il y a bien quelqu'un qui va dire « Ah, ce type-là, il a fait ça, ça, ça et ça. C'est donc probablement un terroriste. » Vous voyez la responsabilité du programmeur dans ce cas-là. Il y a aussi des responsabilités plus directes, c'est celle des vendeurs d'armes numériques. Qui est-ce qui connaît la société Vupen ? Un des fleurons de la French Tech, hein, ceux qui ne connaissent pas, ils devraient connaître. C'est un vendeur d'armes numériques, il n'y a pas d'autre mot. Une société qui développe qui découvre des vulnérabilités dans les logiciels, développe des attaques permettant d'exploiter ces vulnérabilités pour prendre le contrôle de la machine, et au lieu de les donner aux vendeurs pour qu'ils puissent corriger et faire un patch, vend ces attaques à des gens qui les achètent. Alors, je dis à des gens qui les achètent parce que, officiellement, en fait, quand j'ai commencé cet exposé, il me semblait que sur le site web de Vupen, ils expliquaient quels étaient leurs critères de vente, qu'ils ne vendaient pas à tout le monde, parce que les vendeurs d'armes ont une éthique, c'est bien connu, donc ils ne vendent pas à tout le monde, et sur le site web, ils expliquaient leurs critères. En fait, je ne les ai pas retrouvés, leur site web aujourd'hui est quasiment complètement vide, donc les textes qui sont ici sont tirés du profil Twitter de la société et d'un interview de son fondateur et président, qui disent qu'effectivement, ils ne distribuent pas les failles qu'ils trouvent aux vendeurs. La référence à Google, c'était parce que c'était une vulnérabilité trouvée dans Chrome, que Vupen a refusé de donner à Google parce que c'était plus intéressant de vendre la vulnérabilité. Et comme il dit que c'est à plus $1 million, c'est pas une vulnérabilité dans Chrome, ça peut faire pas mal de dégâts. Ça vous donne une idée de ce que rapportent les ventes d'armes numériques. Donc, pour l'instant, je vous laisse deviner à qui ils vendent et comment. Bon, remarquez, avec ces prix-là, on est sûr d'une chose, ils vendent pas à n'importe qui. Il n'y a pas que Vupen qui fait ce genre de choses. Il y a des tas de boîtes qui font, par exemple, ce qu'ils appellent... Alors, il y a toujours des termes rigolos qui sont utilisés pour ce genre de choses. Encrypted Traffic Management, par exemple, ça veut dire espionner le trafic chiffré. Mais espionner le trafic chiffré, c'est un peu sale quand même, ça fait un peu méchant. Donc, Encrypted Traffic Management, tout de suite, ça fait mieux, ça fait moins peur. Donc il y a des tas de sociétés qui font ça, qui font du déchiffrement de trafic TLS. Vous avez tous vu dans une session HTTPS le petit cadenas à gauche qui vous dit que vous êtes en parfaite sécurité, personne ne peut copier votre trafic. En fait, il y a différentes solutions pour arriver à accéder quand même à ce trafic, et il y a des sociétés qui vendent du logiciel pour ça. Est-ce que c'est légal ? Peut-être. Un avocat m'a dit que oui, que c'était légal dans certaines conditions. Est-ce que c'est moral ? Ça, c'est une autre question. Mais quand on développe ce genre de logiciel, à mon avis, on devrait se poser la question de qui va s'en servir, à qui on va le fournir et qui va s'en servir. Alors justement, il y a des gens qui ont des règles. Par exemple, si on regarde le site web de Cosmos, par exemple, Cosmos est une autre société française qui vend des technologies de gestion du trafic. Alors on va dire, pour parler comme eux, certaines personnes parlent d'espionnage, mais c'est méchant. Donc Cosmos, sur son site web, par contre, dit... Alors, d'abord, ils disent au début... j'ai regardé le site web en français et en anglais pour voir s'il y avait des différences. Il n'y en a pas trop. La citation en français dit que donc Cosmos considère que l'entreprise, c'est-à-dire le patron, doit pouvoir savoir tout ce qui passe sur son réseau. C'est vrai, on ne sait jamais. On a peut-être un lanceur d'alerte, par exemple, qui écrit à Mediapart. C'est intéressant de pouvoir le connaître. Et ceci dit, il y a des principes cette fois. Cette fois, il y a des principes et il y a des règles. C'est celles qui sont inscrites ici en anglais. Cosmos ne veut pas qu'on utilise cette technologie pour violer les droits de l'homme. D'accord, ils soutiennent la déclaration des droits de l'homme, etc. Il n'y a pas beaucoup de détails concrets sur ce que ça veut dire. Pour faire vite, j'ai dû supprimer d'autres citations que j'avais mises ici sur mes slides. Il y a d'autres sociétés qui mettent par écrit des critères du genre « nous ne vendons qu'aux pays membres de l'OTAN » ou « nous ne vendons pas aux pays qui sont sur la liste noire des terroristes ». écrite par le gouvernement des États-Unis, parce que chaque pays a sa propre liste noire et sa propre définition de ce que c'est qu'un terroriste. Un autre fleuron de la French Tech, M6, sur son site web, ne donne pas ses critères de vente et n'explique pas à qui ils vendent ou à qui ils ne vendent pas. Donc voilà la situation chez les gens qui développent des logiciels permettant de regarder le trafic, permettant d'attaquer les sites des autres, permettant tout un tas d'opérations. Et ce logiciel-là, on a l'impression, des fois, les gens qui les développent s'en vendent pas en général. On les voit rarement dans les conférences, ou en tout cas pas ici. On voit pas de gens venir faire un exposé pour dire comment j'ai développé un logiciel qui permet de déchiffrer le trafic des employés de manière à ce que le patron puisse le lire, des choses comme ça. Mais il y a bien des développeurs comme vous. Pas des monstres venus de l'outre-espace, hein, c'est des développeurs comme vous qui ont suivi le même genre d'études, qui après ont décidé que le côté obscur, il avait plus de pizza, plus de cookies, et que c'était intéressant de travailler pour eux. Et en général, qui ne se sont pas posés de questions, ou alors quand ils se les posent, c'est « oui, mais ce n'est pas moi qui fais la mauvaise utilisation, oui, mais c'est légal », ce qui est vrai. Hein. Par exemple, les activités de boîtes comme VuPen, à ma connaissance, sont légales. Il y a une zone un peu grise. Hein. Ils ont décidé finalement de quitter la France et de s'installer à Singapour, pas tellement pour des raisons éthiques, pas parce que le gouvernement français allait les menacer parce que leur travail n'était pas éthique, mais pour des simples raisons fiscales. Mais c'était donc apparemment légal comme activité. Il y a donc des activités qui sont légales, mais qui sont néanmoins contestables par rapport à une certaine vision de la morale. Donc, à mon avis, il est important que les développeurs garde ça en tête. Et par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est bien joli de dire c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individus, à tout moment? Le premier truc, déjà, c'est se poser des questions. Mon expérience en discutant avec des informaticiens, c'est qu'en général, la plupart du temps, ils ne se posent pas de questions. Ils se réfugient souvent derrière un argument de neutralité qui est de toute façon, la technique est neutre. Moi, je fais juste un outil. C'est un peu le syndrome, le type qui fabrique des couteaux. Il n'est pas responsable si on utilise des couteaux pour tuer quelqu'un. Le problème, c'est qu'il y a des outils qui sont mixtes, d'autres qui sont beaucoup moins mixtes. Quand on fabrique des couteaux, ça peut servir à plusieurs choses. Quand on fabrique des armes à feu, par exemple, ça ne peut servir qu'à une seule chose. Et puis, je le répète, c'est le problème de pouvoir. Il y a des tas de gens qui peuvent fabriquer des couteaux. Et si on n'en fabrique pas, d'autres le feront. C'est déjà moins vrai pour le logiciel. CF, les difficultés de recrutement qu'il y a dans la profession. Donc les gens qui acceptent de le faire ont une responsabilité plus élevée que ceux qui font un travail banal que n'importe qui d'autre pourrait faire. Donc le premier point déjà, c'est de se poser des questions, de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que on pourrait pas mettre des limites. C'est pour ça que j'avais mis les exemples des sites web, des sociétés qui vendent ce genre de logiciels, parce que la plupart, à part VuPen au début, ou M6, mais la plupart mettent quand même des critères. On ne vend pas à n'importe qui. C'est leur défense principale quand on leur dit « c'est pas bien ce que vous faites », c'est « on ne vend pas à n'importe qui ». Donc la première question à se poser, c'est « est-ce que ces critères sont bons? Est-ce qu'ils sont suffisants ?» À une époque, si je me souviens bien, les critères qu'affichait VuPen sur son site et qui ont disparu, c'était « nous ne vendons qu'à des gouvernements ». Ouais, effectivement. Effectivement, c'est un critère. Ça a l'avantage d'être un critère objectif, hein. Daesh, par exemple, est éliminé comme ça. Par contre, les gouvernements chinois ou nord-coréens, là, ça colle, c'est des gouvernements. Donc, première question, premier point, justement, se poser des questions. Deuxième point, admettre qu'on a une responsabilité, c'est-à-dire ne pas se cacher, ne pas dire « non, mais moi, je suis juste un petit rouage ». Non. On ne peut pas à la fois dire ça, ou alors si on dit ça, si on est sincère, si on dit « moi, je ne suis pas important, je ne suis qu'un petit rouage, mon travail, n'importe qui d'autre pourrait le faire, etc. Ben » alors, il faut être cohérent. Il faut demander à n'être payé pas plus que le SMIC et à ne pas pouvoir choisir son métier. Si on fait un truc non qualifié, que n'importe qui pourrait faire, qui n'a pas de responsabilité, les salaires vont avec aussi. Après, les questions une fois qu'on s'est posé ces questions, on peut se dire « je vais chercher un nouveau boulot, je sors de la fac, j'ai envie de changer de boulot. Quels sont mes critères de choix ? Est-ce que quand je choisis une filière ou une entreprise, quels sont mes critères de choix ? Qu'est-ce que je vais accepter ou pas accepter ? Se fixer un peu des limites. C'est pas évident de le faire, et ce n'est pas évident de savoir jusqu'où où exactement sont les limites, mais déjà de dire « je ne vais pas accepter n'importe quoi, et je vais poser la question, et je vais fixer des limites ». Les textes sur les sites web des vendeurs d'armes numériques qui disent « nous avons des critères, nous ne vendons pas à n'importe qui », c'est bien sûr hypocrite, mais c'est aussi un hommage du vice à la vertu. C'est qu'ils reconnaissent que effectivement, ça peut poser des problèmes, et ça n'est pas évident de faire du logiciel pour ce genre de fonction. Un texte que je vous recommande d'ailleurs tout à fait là-dessus, qui est très utile et qui m'a beaucoup servi, c'est le texte de David Larlet. Vous avez sans doute déjà lu des articles sur le blog de David Larlet, même si vous avez oublié son nom. Il a écrit « Les trois lois du développeur » sur, en gros, un peu l'idée de qu'est-ce qu'un développeur peut accepter et ne peut pas accepter. Et avec ce texte, qui est cette phrase qui est très bien au début, qui est qu'une profession sans éthique n'est qu'une armée de robots. C'est-à-dire que si on dit, c'était mon premier point sur se poser des questions, si on ne se pose pas de questions, si on se dit « non, non, moi je suis juste un technicien sans âme, je suis juste un robot, je fais juste mon boulot », ben à ce moment-là, effectivement, on n'est plus un être humain. On est une machine et donc, ben, logiquement, on ne devrait pas être payé. Par exemple, les machines ne sont pas payées. Florence Porcel, ce matin, avait dit un autre truc dans un contexte un peu différent, mais elle trouvait la phrase jolie, donc je l'ai rajoutée ici. On ne peut pas changer le monde tout seul, mais on peut y contribuer. Parce que chacun peut se dire « oui, mais moi, je suis qu'un petit rouage, je n'ai pas de rôle particulier, je suis pas, c'est pas moi qui ai tout fait ». Oui, mais si tout le monde se dit ça, il n'y aura jamais aucun changement qui aura lieu. En fait, chacun d'entre nous peut faire quelque chose. J'avais cité Snowden comme exemple parce que ben, ce n'était pas quelqu'un de super important ou d'extraordinaire à la NSA. Hein. C'était juste un administrateur système, comme on en croise des tas toute la journée. Simplement, il a décidé que ce qu'il avait vu, ben, c'était intolérable et il fallait faire quelque chose. Alors je ne demande pas à tout le monde d'être un Snowden, mais simplement de dire que tout le monde peut, à l'endroit où il est, déjà faire quelque chose et dire « non, là, ça ne va pas. Là, il faut faire quelque chose ». Alors ça, c'est l'aspect, sur ce slide, un peu les aspects négatifs, ce qu'il ne faut pas faire. Je peux aussi rappeler qu'on peut aussi tous faire des choses qui sont bien. On peut partager notre savoir. Plus il y aura de gens qui seront au courant, moins il y aura de problèmes. Le projet de loi renseignement dont parlait Tristan Itô hier, ce qui était grave, c'était qu'il y a eu énormément de conneries qui ont été dites à l'Assemblée et par les ministres, et pas contestées parce qu'en fait, personne n'a une idée. Par exemple, le ministre raconte, sans rire, qu'il y a des boîtes noires qui vont détecter les terroristes et ne jamais détecter des gens innocents et ne jamais les embêter, et personne ne lui dit rien. Personne ne lui demande comment ça va fonctionner cet algorithme, qu'est-ce qui va se passer, où ça, quels vont être les détails, parce que les gens n'ont aucune idée, n'ont aucune culture numérique, c'est encore plus vrai à l'Assemblée, mais bon, c'est vrai partout autrement, n'ont aucune culture numérique et donc se font facilement baratiner. Ça permet à des ministres de faire voter des lois liberticides parce que les gens, n'ayant pas assez de culture numérique, se font trop facilement baratiner et croient des trucs du genre « en fait, on espionnera pas les communications des journalistes ». Comment la boîte noire va reconnaître une communication de journaliste, on le dit pas. Hein. Ou bien « on ne gardera pas les données ». Ben, le problème, c'est que pour savoir, on ne gardera pas les données pardon, qui ne sont pas intéressantes. Le problème, c'est que pour savoir si elles sont intéressantes, il faut les avoir eues, les avoir analysées. Donc, même si on les efface juste après, et supposons qu'on le fasse, qu'est-ce que ça donnera? On nous dit aussi qu'il y aura une commission de contrôle qui vérifiera les écoutes. Ben oui, la commission de contrôle, on va lui montrer ça. On va dire, ben, allez-y, contrôlez. Là encore, c'est... alors, si, il y a un progrès. Dans cette commission, il y aura un ingénieur. On nous a promis. La commission précédente, il n'y avait zéro technicien, donc on pouvait leur raconter n'importe quoi. La nouvelle, il y aura un ingénieur. Est-ce qu'on lui permettra d'ouvrir la boîte noire? Est-ce qu'on lui donnera le code source? J'en doute fort. Donc ça, ce genre de truc, ça passe parce que les gens en général, hein, les gens ordinaires, tout le monde, du ministre jusqu'au député en passant par le fameux monsieur Michu, n'ont pas de compétences minimum dans le domaine du numérique. Et ça, ça dépend de nous. C'est un peu à nous qu'on peut faire en sorte de répandre ces compétences. Plus il y aura de gens qui seront au courant, plus il y aura un contrôle citoyen possible. Donc c'est le rôle du logiciel libre aussi, de permettre à tout le monde d'accroître ses compétences. C'est le rôle d'encyclopédie libre comme Wikipédia. C'est le rôle de services d'échange comme Stack Exchange. Stack Exchange est vraiment un bon modèle de gens qui participent. Qui est-ce qui, ici, a un compte Stack Overflow et s'en sert? Voilà, ben c'est très bien. C'est très bien, c'est, je pense, ce genre de choses qu'il faut faire, et pas seulement pour le logiciel. Stack Exchange a d'autres services que Stack Overflow. Le but étant pas seulement d'aider pour être gentil, mais parce que dans une société où tout repose sur l'informatique et où on passe par de l'informatique absolument partout, il est essentiel que tout le monde ait des compétences de base minimum en informatique. Alors on va me dire, non, non, mais Monsieur Michu, lui, il s'en fiche. Justement, c'est ça le problème. Le problème est effectivement que M. Michu est tenu à l'écart des décisions importantes, et l'informatique, malheureusement aujourd'hui, est un des outils dont on dispose pour empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. C'est justement ça qu'il faut changer, et ça, c'est justement notre responsabilité à tous. Merci, et puis c'est la fin de Mixit, mais c'était très bien.